Alors d'où sort-il ce Napoléon? Vous savez qu'il s'appelle Buonaparte. Son vrai nom, c'était Buonaparte. Les Buonaparte sont des Corses qui viennent d'Italie vers le XVIe siècle, semble-t-il. Le premier qu'on ait pu repérer était un commis de la banque Saint-Charles, ou Saint-Georges plutôt, de Gênes. On n'aperçoit d'ailleurs aucun soldat chez eux. Ce sont tous des fonctionnaires, ce sont des robins. Le père de Napoléon Buonaparte sera un greffier au tribunal. C'est une famille qui s'est fait anoblir, mais récemment. C'est de 1757, hein, 1757, l'anoblissement de cette famille, donc une noblesse toute récente. En 1757, celui qui va devenir le père de Napoléon Bonaparte est un petit garçon de 11 ans. C'est donc le grand-père de Napoléon qui est devenu noble. On habite dans une petite maison de la rue Malherba, ce qui veut dire la rue de la mauvaise herbe. Une maison, il faut le dire, assez sordide. Napoléon dira plus tard, je suis né dans la misère, il n'exagérait presque pas. On n'est pas riche du tout, seulement on a des prétentions. On est noble et il a une phrase de sa mère qui nous racontera lorsqu'il est à Sainte-Hélène. Vous savez, à Sainte-Hélène, ce sera un bavard intarissable. Il nous dira des tas de choses sur lui. Mais il nous rappellera une phrase de sa mère qui disait « Mieux vaut manger du pain sec à la maison et briller dans ses vêtements. » Donc il s'agit de paraître. Son père s'était marié en 64, ce qui fait qu'il avait 18 ans. Il avait épousé une petite fille de 14 ans, mais vous savez, les méditerranéennes sont précoces, qui s'appelait Laetitia Ramolino. Ils auront bientôt 4 enfants, mais il y en a 2 qui vont mourir tout de suite. L'aîné s'appelle Giuseppe, qu'on appellera ensuite Joseph. Il est né en février 68. Mais dans cette même année 68, un énorme événement se produit. C'est au mois d'août l'année 68. La Corse, qui en principe appartenait jusqu'alors à Gênes, à l'état de Gênes. Je dis bien en principe parce que vous savez, les liens étaient très détendus. Il y avait en Corse un nommé Paoli qui dirigeait tout. On s'arrangeait pour ne plus payer les impôts que les Génois imposaient. Par conséquent, il y avait une quasi-indépendance. Mais au mois d'août 68, l'état de Gênes vend la Corse à la France. 30 000 soldats français vont débarquer. Les gens sont extrêmement furieux pour deux raisons. Premièrement, ils parlent italien ou un dialecte italien. Ce sont des occupants étrangers qui arrivent. Ils considèrent les Français vraiment comme des étrangers. Et d'autre part, si les impôts ne se payaient plus du côté de Gênes, maintenant, avec le gouvernement royal, le gouvernement de Louis XV, puis bientôt Louis XVI, les impôts seront sérieux. D'où une très violente résistance. Des combats, enfin, ça va très mal. La famille Buonaparte s'est engagée dans la résistance. Et le père, Carlo Buonaparte, celui qui va bientôt être le père de Napoléon, est un des premiers collaborateurs de ce Paoli, son premier lieutenant, enfin quelqu'un qui se bat, paraît-il, qui aurait même fait le coup de feu contre les Français. À Ponte Novo, le 9 mai 1768, le 9 mai 69, je me trompe, à Ponte Novo, voilà un désastre qui se produit. L'armée de Paoli est complètement liquidée. Alors qu'est-ce qu'il va faire, le Buonaparte? Brusquement, Buonaparte va renverser sa politique, faire une volte-face, quitter Paoli et la résistance pour passer à ce qu'il faut bien appeler la collaboration. Voilà le Corse Carlo Buonaparte qui passe du côté des Français et qui se fait immédiatement détester d'une grande partie de la population et très particulièrement, vous le comprenez bien, de Paoli. Ça se situe à peu près en mai ou en juin 1769. Et le 15 août 1769, cette famille s'agrandit, le quatrième enfant, mais je viens de vous dire qu'il y en a déjà 2 qui sont morts, il ne reste plus que le Giuseppe. Ce quatrième enfant, on va lui donner un prénom qui nous paraît inhabituel, mais qui était habituel là-bas, Napoléone. Sa mère dira, peut-être en souriant, Nabulione, et même, comme font souvent les mamans pour le petit garçon diminutif, il s'appelle le petit Nabou. Et bien, le petit Nabou, plus tard, laissera lui-même entendre qu'il n'est peut-être pas le fils de son père, mais qu'il est le fils du gouverneur français qui est là, le général comte de Marbeuf. En particulier, lorsqu'il reviendra de l'expédition d'Égypte, c'est en 99, sur le bateau qu'il ramène, il est avec un groupe de savants et avec Monge en particulier. Il le dit à Monge, je peux être un général pour père, ça me paraît impossible. Il n'aimait pas beaucoup son père, je vous en parlerai. Ça lui paraissait plus avantageux d'être le fils d'un général français qui s'appelait Marbeuf, puisque du côté des siens, il n'y avait aucun soldat, tandis que s'il était le fils d'un général français, ça le plaçait. Non, les dates sont là. Vous savez, il est né, vous avez bien entendu, hein, il est né le 15 août 69. Or, au mois de mai 69, sa mère, son père, ne connaissaient pas encore Marbeuf. Ils étaient du côté de Paoli. La trahison de Carlo Buonaparte se situe, par exemple, enfin par là, en juin 69. Donc, il est impossible. Que Laetitia Ramolino, devenue Madame Buonaparte, ait été la maîtresse de Marbeuf, qu'on ne connaissait pas 9 mois plus tôt. Donc, pas question, il est bien le fils de son père. Mais si Marbeuf n'est pas son père, il est aujourd'hui certain, il faut le dire, que M. de Marbeuf va devenir l'amant de sa mère. tout à fait au sud de M. Carlo Buonaparte. Et Carlo Buonaparte, c'est un réaliste. Il s'était marié en 64, je vous l'ai dit, en 65, il avait déjà une sale histoire, il avait 19 ans en 65. On le trouve, on ne sait pourquoi, à Rome, mêlé à une histoire fâcheuse, à la fois une fille engrossée alors qu'il est marié et qu'il a abandonné, et d'autre part une escroquerie. Alors c'est pas très étonnant que cet homme se soit dit, mais il y a beaucoup d'avantages pour moi à être du dernier bien grâce à ma femme avec le gouverneur. Et en effet, ça va rapporter. Par exemple, dès 1777, ce monsieur Carlo Buonaparte va être désigné par Marbeuf pour être un des représentants de la noblesse corse aux États de Corse qui se réunissent à Versailles. Il a plusieurs enfants. Et il va demander à Marbeuf, qui ne demande que ça, fait qu'il est très, très content de rendre service à quelqu'un d'important dans la colonie, enfin dans le département si vous voulez, et surtout au mari de sa maîtresse, il va lui demander de se charger, de faire charger la France de l'éducation de ses enfants. Alors le Carlo Buonaparte, qui est malin, se fait donner un certificat d'indigence. À ce moment-là, il n'était plus indigent. Le départ, oui, il l'était, mais depuis l'amitié protectrice de Marbeuf, que Paoli appelait du reste le pacha luxurieux, depuis cette amitié protectrice, la famille s'est établie sur un pied un peu meilleur. Alors, certificat d'indigence qui se fait donner en 76, de telle manière que les enfants puissent être élevés à la charge de la France. Et en décembre 78, le voilà le père qui va partir de Bastia avec ses deux aînés, le Giuseppe et le petit Napoleone. On va les emmener à Autun. Pourquoi Autun ? Parce que, paraît-il, le Giuseppe, il aurait une vocation sacerdotale. N'en croyez rien. On dit simplement, à ce moment-là, vous savez que c'est très bien dans les familles aristocratiques, qui est un prêtre d'un côté et un soldat de l'autre. Alors l'aîné sera prêtre, Giuseppe, parce qu'il n'a pas envie d'être soldat. Et le tout petit, il a 9 ans et demi, qui s'appelle Napoléoné, on va l'emmener au séminaire d'Autun. Et pourquoi a-t-on choisi Autun ? Parce que l'évêque d'Autun s'appelle Marbeuf. C'est le prédécesseur juste de Talleyrand, vous savez. C'était le frère de M. Marbeuf. Alors, pendant 3 mois, mais seulement pendant 3 mois, au début de l'année 79, Napoléoné va être élève du séminaire d'Autun. Il ne sait pas le français, c'est très important. Il ne sait pas, absolument pas le français. Il sait un dialecte corse. Et pendant ces 3 mois, on nous dit, par exemple, M. Madeleine dit, il a appris le français en 3 mois. Non, c'est pas vrai. Il a commencé à baragouiner le français. Et au bout de 3 mois, il va aller à une école militaire, puisqu'on le destine à être un officier, l'école militaire de Brienne. Brienne dans l'Aube, vous savez, près d'Arcis-sur-Aube, la patrie de Danton. Là, il ne va pas rester 3 mois, il va rester 5 ans. Qu'est-ce que nous avons comme renseignement sur le petit Napoléoné à Brienne ? Bon, il y en a pas mal, mais seulement ils ne sont pas sérieux. Je vous parlais de la critique des documents, et c'est là qu'il faut faire très attention. Il y a dans la correspondance de Napoléon un texte qui est encore aujourd'hui souvent admis, et qui est visiblement un faux. Je vais vous le montrer, et je vais vous dire pourquoi c'est un faux. C'est une lettre que le petit Napoléoné aurait adressée à sa mère en avril 81, ce qui lui fait 12 ans, à peu près, même pas 12 ans. Il parle de ses camarades. Et il aurait dit, il n'y en a parmi eux pas un seul qui ne me soit très inférieur par les sentiments dont mon âme est enflammée. Pensez-vous que ce garçon de 12 ans, de moins de 12 ans, pouvait écrire des choses pareilles ? La preuve que ce n'est pas vrai, c'est que les billets authentiques que nous possédons d'un Napoléon, qui n'a pas 12 ans mais qui a 18 ans, 19 ans, 20 ans, sont dans un français extraordinairement approximatif. Tenez, par exemple, il écrit en 86, il a 17 ans, il écrit à un libraire. J'entends votre réponse au lieu de j'attends, mais il écrit bien J-E-N-T-A-N-T. J'entends votre réponse pour vous envoyer l'argent à quoi cela montera. Un autre texte de février 93, il a 24 ans. C'est un texte qu'il écrit à colonel ou colonna Cesari. Il lui dit, je vais partir de Bonifacio pour me rendre à Ajaccio. Je me trouverai le plus près de voir, écoutez bien, hein, je me trouverai le plus près de voir les nouvelles des commissaires. J'entends de vos nouvelles. Toujours, à 24 ans, il entend toujours, ou attend, c'est la même chose. J'entends de vos nouvelles, je verrai de travailler à éclairer l'opinion. Verrai, ça s'écrit V-A-I-R-A-I. Je verrai de travailler à éclairer l'opinion. Par conséquent, le document qu'on nous apporte, celui de 81, il y en a un autre de 82, comme étant des lettres authentiques du petit Buonaparte pour nous montrer à quel point il est extraordinaire en français, tout ça, c'est un mensonge. De même, quand on nous présente des lettres de sa mère, deux lettres de sa mère, qu'elle lui aurait écrites quand il était à Brienne, c'est une plaisanterie. La pauvre Laetitia, enfin celle qui deviendra Madame Mère, est quelqu'un qui savait à peine lire et écrire, écrire à peu près pas, lire un petit peu, est tout à fait incapable d'écrire les lettres qu'on lui attribue. Chateaubriand, dans les mémoires d'autres tombes, dira « Quand un homme est devenu fameux, on lui compose une enfance de légende ». Eh bien oui, on a composé une enfance de légende au sujet de Napoléon. Alors qu'est-ce qu'il a comme certitude ? Il n'y en a pas grand-chose comme certitude. Un, à Brienne, il a sûrement été malheureux. Il y a un petit détail important, il baragouine le français, il le parle très mal. Et les camarades, vous savez, c'est jamais gentil. Enfin, quand un garçon arrive là, parmi des copains et qui parle un français très mauvais, les garçons se moquent de lui. En plus, il a eu l'imprudence d'avouer son prénom. Encore, c'est rien, hein, Napoléonais, ça va. Mais quand il est Napoléonais au petit garçon de Brienne, alors on l'appelle tout de suite la Paillonnée. Et il n'aime pas ça du tout. D'autre part, c'est un garçon qui n'est pas brillant. Monsieur Madeleine. Il nous dit qu'il était d'une intelligence tellement exceptionnelle qu'il a dépassé très rapidement ses maîtres, en particulier en mathématiques. Mais non, c'est-à-dire qu'on a été aller regarder les dossiers. On les a, les dossiers du petit Bonaparte, là-bas, quand il était à Brienne. Élève très moyen. En mathématiques, un peu supérieur au reste. Mais très moyen. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Sinon, une petite note qui est très intéressante, qui est une note du directeur, qui dit « caractère soumis ». Alors quand, à 15 ans, il quitte cette petite école de Brienne, c'est un garçon très convenable, pas brillant, pas extraordinairement brillant, mais surtout qui n'est nullement en révolte, comme on l'a souvent représenté. Et où va-t-il à 15 ans? Ben, il va à l'école militaire supérieure de Paris, l'école militaire supérieure qui était pour les cadets gentilshommes, et il est cadet gentilhomme, comme Chateaubriand le sera l'année suivante. C'est un home de luxe, vous avez cette école militaire de Paris, c'était pas sérieux du tout. Quand je pense que M. Bainville, dans son histoire de la Révolution, l'histoire de Napoléon aussi, Bainville dit, dans cette armée d'Ancien Régime, tout était sérieux. Oui, ben quand on regarde de près, c'est pas sérieux du tout, à preuve que le budget de la guerre, savez-vous, le budget de la guerre en 1789, la moitié du budget de la guerre était consacré à la solde des officiers.